J'ai intitulé le message là, le semeur, la semence et les terrains. Alors, la dernière fois qu'on a regardé le sujet que des paraboles ensemble, c'était pour comprendre la raison pourquoi Jésus se servait de ce moyen d'enseignement-là. Puis, selon ce qu'il disait, il les a employés dans le but de cacher la vérité aux non-croyants qui, de toute façon, ne veulent pas connaître que la vérité. Alors, quand tu veux cacher quelque chose à quelqu'un qui ne veut pas le trouver, bien, finalement, tu ne caches pas grand-chose. Il ne veut pas le trouver pareil. Alors, ça, c'était le but pour lequel le Seigneur Jésus-Christ utilisait les paraboles dans son enseignement. Cacher la vérité aux non-croyants, mais d'un autre côté, de la révéler aux disciples, puis à tous ceux qui avaient un cœur bien disposé pour l'entendre, pour l'écouter, pour la recevoir et pour y croire. Dans Matthieu 13, 11, on lit, « Il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux et que cela ne leur a pas été donné. » Alors, pour un groupe, il leur a été donné de pouvoir connaître les vérités de la parole de Dieu pour la raison qu'ils veulent la méconnaître. Pour l'autre, ça leur est caché parce que de toute façon, ils n'en veulent pas. Alors, on va regarder ensemble maintenant l'explication de justement la parabole du semeur que le Seigneur a donnée. Puis j'aimerais que on s'y arrête pour essayer de la comprendre, parce que c'est le but. Ceux qui sont intéressés à connaître la vérité, les paraboles sont là pour ça, pour nous révéler des choses. Quels sont ceux qui n'ont jamais entendu parler de la parabole du semeur? Vous l'avez entendu, pas juste une fois, hein? Mais alors, est-ce qu'il y a quelque chose encore qu'on est capable de découvrir à travers cette parabole-là? Moi, je pense que oui. Alors, c'est ça qu'on va regarder ensemble. Si vous voulez tourner maintenant dans Matthieu, chapitre 13, au verset 4. Matthieu, chapitre 13, verset 4. Puis quand on va expliquer tantôt, on va servir du texte que Luc, ce qu'il nous a donné lorsque le Seigneur donne l'explication de la parabole. Mais là, on lit Matthieu 13, au verset 4. Un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit, un grain 100, un autre 60 et un autre 30. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Ça, c'est une phrase là, capitale. Que celui qui a des oreilles pour entendre, que celui qui veut savoir la signification des paroles du Seigneur Jésus, celui qui veut savoir, mais qui prête oreille à ce que le Seigneur y est en train de dire. Et dans le même chapitre, au verset 18, là, Jésus donne la signification. Voici donc, écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même, il manque de persistance, et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Verset 22, « Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit et un grain en donne 100, un autre 60, un autre 30. Prions. Oui, Seigneur, on est toujours ébahis devant tes paroles et on veut vraiment, Seigneur, que dans ta grande bonté, tu puisses ouvrir nos cœurs, tu puisses toucher nos cœurs afin qu'on puisse vraiment comprendre le véritable sens de tout ce que tu voulais que nous comprenions. Et on te le demande vraiment pour ta plus grande gloire au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. OK. Alors, verset 18. « Vous donc, écoutez. » Le « vous » inclut ceux qui sont décrits au verset 16. Dans Matthieu 13, 16, quand on lit « Heureux sont vos yeux parce qu'ils voient et vos oreilles parce qu'elles entendent. » Alors, le « vous » inclut tous ces gens-là, ceux qui ont des oreilles pour entendre, qui ont des yeux pour voir. Parce que malheureusement, dans notre monde, dans notre société, les gens voient la même chose que nous autres, mais ils ne comprennent pas la même chose que nous autres. Ils entendent, si vous emmenez un inconverti qui ne veut rien savoir de l'Évangile, vous avez beau l'amener ici, à moins d'un miracle du Seigneur, il va entendre des choses, ça risque de ne pas résonner. Mais d'un autre côté, si le Seigneur veut vraiment qu'il me comprenne, il va comprendre. Alors, le Seigneur parle d'un semeur dans Matthieu 13, mais sans l'identifier clairement. Il dit un semeur sorti pour semer. Mais dans la parabole qui suit, c'est-à-dire dans la parabole de l'ivraie et du bon grain, au verset 37, le semeur ici, il est bien identifié. C'est écrit, « Celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. » Là, ici, on comprend c'est qui sème. Mais dans la parabole du semeur, le semeur n'est pas identifié. On sait que durant son ministère terrestre, le Seigneur lui-même se met directement. C'est lui qui prêchait l'Évangile à son entourage. Le semeur était clairement identifiable. Aujourd'hui, le Seigneur continue de semer, mais à travers n'importe qui va proclamer la parole de Dieu. Soit en faisant ce que je suis en train de faire là, en faisant de la prédication, soit en faisant de l'évangélisation. Lorsqu'il y a des campagnes d'évangélisation, les chrétiens se mettent ensemble pour semer. Ils passent des fois dans des villes puis des villages, ils vont dans des parcs puis ils sèment la parole de Dieu. Soit qu'ils vont laisser des maîtraités, ils vont s'asseoir à terre avec quelqu'un qui est intéressé, ils vont lui parler de l'Évangile. Alors, ils sont en train de semer. Ou, lorsque vous donnez votre témoignage personnel à quelqu'un qui est intéressé de l'entendre, mais vous êtes en train de me semer. Vous faites la job du me semeur. Matthieu 13, 4, on lit « Un semeur sorti pour semer ». C'est la seule exigence qui est demandée de la part du semeur. T'es semeur, alors sème. T'es soudeur, soude. C'est quelqu'un qui comprend ce que je veux dire, là? Le semeur est là pour semer. Alors, dans l'Évangile de Luc, quand le Seigneur raconte la signification de cette parole, de cette parabole-là, la première chose qu'il dit dans Luc 8, 11, c'est écrit « La semence, c'est la parole de Dieu. » Alors, la semence, c'est la parole de Dieu. Si tantôt, le semeur n'était pas identifié de façon claire dans Matthieu 13, ici, la semence, elle est clairement identifiée. La semence, c'est la parole de Dieu. C'est ça qui est la semence. Si vous voulez semer quelque chose comme croyant, vous ne devez pas semer autre chose que la parole de Dieu. Arrivez pas avec « moi je pense » puis « moi je dis » puis « un tel dit ». La parole de Dieu dit. Le semeur, c'est ça sa responsabilité, dire ce que Dieu dit. Alors, le semeur ou tous ceux qui sèment se doivent de semer la parole de Dieu. Là, vous allez dire, tu répètes, il n'y a rien de mieux que ça. Puis en plus que je bégaye, ça fait que ça aide. Alors, ce que Jésus enseigne n'a rien à voir avec l'habilité du semeur ou la qualité de la semence. La semence reste et restera toujours inchangeable et invariable. La parole de Dieu, ce n'est pas parce qu'on est rendu en 2026 qu'elle est différente de ce que les croyants prêchaient en 1950. C'est la même parole de Dieu, c'est le même message. Si on s'imagine qu'on peut changer ou transformer le message en adoucissant, mettons, le scandale de la croix, parce qu'il y en a, quand on leur parle de la croix, c'est macabre, ça n'a pas de bon sens, puis c'est bien trop horrible. Alors, si on joue sur ça, on va en mettre moins épais pour ne pas faire peur au monde. Ou si on tente d'éliminer les aspects difficiles de la vie chrétienne pour essayer d'avoir une meilleure réaction de la part des cœurs qui vont recevoir ce qu'on leur dit, mais bien souvent, c'est tous des cœurs endurcis. Alors, ce n'est pas en adoucissant que le cœur il va s'adoucir lui non plus. Ou si encore on veut laisser de côté la notion de péché, notion que notre société ne veut plus rien savoir. Parler de péché aux gens du monde aujourd'hui, qu'est-ce qui va arriver? Ben, vous allez passer pour un arriéré, ça n'existe plus le péché. Alors, on ne fera pas le travail du semeur si on n'a pas la bonne semence à semer. Donc, inévitablement, on n'aura pas de récolte. Si quelqu'un ne croit pas que l'Évangile de Christ est encore capable de sauver les âmes, c'est parce qu'il ne croit pas à l'Évangile du tout. Si la vérité de Dieu ne peut plus sauver les âmes, comment pouvez-vous penser que le mensonge des hommes, eux, vont pouvoir le faire? Alors, les croyants sont ceux qui ont adopté l'Évangile et qui ont cru. C'est les seuls qui peuvent semer. Mais encore là, est-ce qu'il faut qu'ils connaissent la semence? Il faut qu'ils connaissent la parole de Dieu et il faut qu'ils la mettent en pratique. Jacques, c'est qu'il nous dit ça là, dans Jacques 1, 22. Le croyant qui ne connaît pas sa Bible parce que soit il ne la lit pas ou il la lit très peu, qu'est-ce qu'il va avoir à semer? Si la semence est la parole de Dieu, mais que je ne connais pas la parole de Dieu, si vous voulez que je sème. Quelqu'un qui vous dit... Hey, ça va-tu assez mal dans le monde aujourd'hui? Il va falloir qu'il arrive de quoi, ça, qu'à un moment donné? Qu'est-ce que vous allez dire? Parce qu'il y a uniquement les croyants qui sont capables de dire de quoi sur ça. Il y a uniquement les croyants qui sont capables de dire ce qui va arriver dans le futur. Ce n'est pas parce qu'on fait de l'astrologie, là. C'est parce qu'on croit ce que Dieu dit. Il y a certaines affaires qu'on n'est pas au courant à cause des détails. Mais tout le monde ici, on sait qu'un jour, le Seigneur va revenir chercher son Église. Alors, il faut avertir les gens. C'est-tu ça que le Seigneur, il va revenir chercher les siens? Puis la plupart des gens ne savent pas ça. Alors là, vous leur expliquez. Puis qu'est-ce qu'il faut faire pour faire partie des siens? Qu'est-ce qu'il faut faire pour faire partie de son Église pour être enlevé avec tous ceux-là? Alors, c'est ça qu'il faut être en mesure... de dire aux autres, parce que c'est la responsabilité des chrétiens d'avertir leur entourage. Attendez-vous pas que ce soit des émissions à la télévision qui, bien souvent, sont bourrées de menteries. Attendez-vous pas que ce soit ça qui va les réveiller. Nous, comme semeurs, on connaît la parole de Dieu, c'est ça qu'on sème, c'est ça qu'on doit aussi semer. Alors, on a parlé du semeur, de la semence. Maintenant, on va voir la leçon de la parabole qu'on a lu mais tantôt. On a déjà dit que la réaction d'une personne à la parole de Dieu, ça dépend de la condition de son cœur. Lorsqu'on vous a parlé de l'Évangile la première fois, votre cœur était dans une certaine condition. C'est la raison pourquoi il y en a qui, la première fois, tout de suite, ils acceptent le Seigneur Jésus-Christ, parce que le terrain était propice. D'autres, ça va prendre du temps. Ça va prendre du temps. Puis d'autres, ça ne prendra jamais assez de temps parce qu'ils ne veulent pas. Alors, le récit qu'on examine ce matin, il met l'accent sur la nature des différents terrains. Ici, on a différentes conditions de cœur qui sont toutes illustrées dans les quatre sortes de terrains qu'on va voir. Alors, on a affaire avec quatre terrains, quatre auditeurs. L'auditeur le long du chemin. Deuxième terrain, c'est l'auditeur superficiel. Troisième terrain, c'est l'auditeur mondain. Et le quatrième terrain, l'auditeur qui porte du fruit. Alors, le premier terrain, si vous voulez tourner dans Luc, chapitre 8, verset 12. Luc 8 puis Matthieu 4 parlent de la même chose, mais ils jouent un petit peu avec les termes. Mais là, ça dit pareil. Donc, Luc 8, 12. C'est écrit, « Ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent, puis le diable vient et enlève de leur cœur la parole, de peur qu'ils ne croient et soient sauvés. » Alors, on a ici, on a ici l'objectif du semeur. La raison pourquoi le semeur sème, c'est pour quoi? Récolter. Quand vous faites des jardins chez vous, là, vous faites ça pourquoi? Parce que vous aimez ça, vous mettre à genoux dans la terre et puis jouer dans la terre. Il y a ça aussi, mais c'est pour récolter. Vous aimez bien les mécarottes, vous allez semer des mécarottes. La raison pour laquelle on sème, c'est pour ça. Alors, celui qui sème la parole de Dieu, il a le même objectif que celui qui sème des graines pour récolter de la nourriture. En cours de route, c'est inévitable qu'on va rencontrer des gens puis des auditeurs avec un cœur aussi dur que le ciment. Ça, vous ne pouvez rien faire avec ça. Vous ne pouvez rien faire pour changer ça. Il y en a qui sont comme ça. La Bible qualifie ces gens-là de gens au cou raide. C'est cette catégorie de gens-là qui ont lapidé Étienne dans Acte 7. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. Dans Acte 7, avant de mourir, Étienne a dit d'eux, là, au verset 51, il a dit « Homme au cou raide ». D'autres versions disent « Homme rebelle, obstiné ». Incirconcis de cœur et d'oreille. Vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Ce que vos pères ont été, ben vous l'êtes aussi. Alors, il y a une catégorie de gens qui sont comme ça. Maintenant, on ne commencera pas à dire, ah, lui, il est comme ça, lui, il est comme ça, lui, il est comme ça. On n'est pas capable de sonder les cœurs humains. Uniquement Dieu sait ça. Mais c'est la raison pour laquelle il nous a laissé une parabole pour qu'on puisse entrevoir. Ceux qui ont un cœur dur et qui ne veulent rien savoir, ils font partie du premier terrain. Maintenant, qu'est-ce qui rend une personne aussi dure et imperméable que ça à l'Évangile? Alors que d'autres, vous allez le jamais parler, puis on va voir un petit peu plus loin comment qu'eux s'y réagissent. Alors, qu'est-ce qui rend une personne aussi dure à l'Évangile? Ça peut être l'indifférence. Moi, c'est ça qui me caractérisait lorsque j'étais non-croyant, indifférent. Et j'ai encore à me battre avec ça, moi, l'indifférence. Des fois, là, ça ne m'intéresse pas. Alors, je ne mettrai pas trop d'efforts pour m'intéresser. Suzanne, des fois, elle me le dit souvent, puis elle a raison. Ou l'insensibilité, la moquerie. Quand vous parlez du Seigneur à des gens, il y en a qui ont cette tendance-là, ils se moquent. Ils ne se moquent pas vraiment de nous, ils se moquent de Dieu. Alors, ils ont un cœur qui nous dévoile dans quel état ils sont. Encore l'amour du péché. Il y en a qui aiment le péché dans lequel ils vivent. Et curieusement, il y en a d'autres, c'est la religion. C'est bizarre, hein? Mais la religion va les tenir indifférents ou insensibles à la parole de Dieu. Donc, la graine semée reste au niveau du sol. Alors, on peut comprendre que ce n'est pas dur pour les oiseaux d'arriver et de manger la graine. Maintenant, comment est-ce que le diable s'y prend pour enlever la parole de Dieu du cœur d'un individu? Là, on a affaire au diable, quelqu'un de subtil, d'habile, de perspicace, d'ingénieux. Il y a toutes sortes de trucs. Il peut utiliser le mensonge et le doute. On a vu comment est-ce qu'il s'est pris avec Ève. Est-ce que Dieu a vraiment dit? Puis là, attention ici. Le doute, ce n'est pas uniquement pour les incroyants. C'est également pour les croyants. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais ça arrive. Ça a beau faire au-dessus de 40 ans que tu connais le Seigneur. Des fois, ça arrive que l'ennemi réussit à te passer une phrase dans la tête, mais tout ce que tu fais là, ça vaut-tu la peine? Tu sais, des fois, moi, que j'étais à mon bureau en haut, là, puis là, j'étudie la parole de Dieu, puis tout d'un coup, j'entends comme, ça vaut-tu vraiment la peine, tous les efforts que tu mets là-dessus? Tous ceux qui préparent des messages, si on est sérieux, le moindrement, là, t'en as pour un 20-25 heures, là, là-dedans, là, à piocher, à travailler, à ouvrir tes livres, à faire des recherches. C'est long. C'est compliqué, des fois. Puis, en bout de ligne, on se dit, « Oui, mais ça vaut-tu la peine? Comment ils vont recevoir ça, ceux qui sont dans la salle? » Tu ne sais pas comment ils vont recevoir ça. Ça dépend de la condition du cœur des êtres humains. Mais le doute, c'est une affaire qui nous plane au-dessus de la tête constamment. Il y a quelqu'un qui m'avait dit un jour, il dit, la meilleure chose à faire à un croyant qui est en train de mourir, là, il dit, parle-y de l'Évangile. Ça va lui faire du bien, puis il va se rappeler, là, probablement tout ce qu'il a vécu au début de sa vie chrétienne, ça va l'apaiser. Parce que l'ennemi, lorsqu'un croyant est sur le bord de mourir, je ne le sais pas trop, je ne suis pas encore là, là. Mais j'imagine qu'il doit graffiner pour essayer au moins de te faire perdre la joie de ton salut. Il ne sera jamais capable de te faire perdre ton salut, mais l'assurance puis la joie, peut-être qu'il peut aller jouer dans ce total-là. On ne le sait pas, il est hypocrite, il prend tous les moyens pour essayer de te faire douter. On sait qu'il est trompeur aussi. Donc, la Bible nous dit que c'est le père du mensonge. Si l'ennemi est le père du mensonge, ne nous pensons pas plus fins que lui. Il est assez puissant. Je ne dirais jamais qu'il est tout puissant, mais il est assez puissant pour nous faire plier les genoux à l'occasion. Juste dans le doute, ça vaut-il la peine que je fasse tout ça? Oui, ça vaut la peine! Puis continue de le faire, parce que lui, il veut plus que tu continues ça. C'est que vous voyez sa game à lui, là. Il peut aussi se servir des faux docteurs. Regardez ce qu'on lit dans 2 Corinthiens. 2 Corinthiens, chapitre 11, verset 13. Puis bien souvent, il y a des faux docteurs qui habitent puis qui vivent dans des églises évangéliques, là. 2 Corinthiens 11, verset 13, c'est marqué, « Ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs déguisés en apôtres de Christ. » Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ses ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. Alors, tu as beau connaître la vérité, il faut que tu sois constamment prudent. Parce qu'on a affaire à un ennemi qui est assez bien équipé pour nous faire glisser. Il peut aussi servir de la peur de ce que les autres vont penser. Si je commence à aller à l'église, tu sais, quand je me souviens quand j'étais jeune, quand j'étais jeune croyant, là, mais si on va à l'église, il y en a qui vont reconnaître mon char. Là. Là, ici, ils vont dire quoi de moi? Là? Ah, il est rendu avec cette gang-là. Puis... Alors, la peur de ce que les autres vont penser. Il sert aussi de l'amour d'un cœur perdu pour les plaisirs du péché. Il sait que les gens préfèrent les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres sont que mauvaises. Vous savez, c'est facile pour le diable de se rendre attachant et agréable pour ceux qui aiment les ténèbres. Très facile. Deuxième terrain, Luc 8, 13. Ceux qui sont sur le roc, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent avec joie. Mais ils n'ont point de racines, ils croient pour un temps et ils succombent au moment de la tentation. Alors, l'auditeur superficiel, ou encore le terrain où il y a des endroits pierreux, où il y a du roc. La caractéristique d'une semence qui tombe dans une fine couche de terre, au-dessus d'un terrain rocailleux, c'est que ça va pousser vite. Mais ça va aussi. Pourquoi? Parce qu'on l'a lu dans le texte, ils n'ont point de racines. Si vous voulez que quelque chose grandisse et qu'il soit fort, ça prend un système racinaire fort. Alors, s'il n'y a pas de racines, ça va pousser vite, mais ça va mourir vite aussi. Ça, c'est la caractéristique des endroits pierreux. Ça représente la personne au cœur superficiel qui réagit immédiatement, mais pas de façon profonde. Certaines personnes vont réagir à l'Évangile exactement à l'opposé de ceux qui ont un cœur dur, ceux qui sont sur les graines qui tombent sur le long sec du chemin. Là. Ces gens-là semblent réceptifs. C'est écrit, celui qui entend et reçoit la parole avec joie. Il va recevoir la parole de Dieu que tu lui dis avec joie, contrairement à d'autres qui ne veulent rien savoir. Viens pas m'achaler avec ça. Il y en a d'autres qui vont, hey, ça a de l'allure ce que tu dis là. Alors, ils vont recevoir ça avec joie, mais, il y a un mais, ils n'ont point de racines. Ils vont croire pour un temps. Et c'est justement là qui est le problème, pour un temps. Il y a un chrétien que j'aimais beaucoup et que j'appréciais beaucoup, M. Kebutry, qui était pasteur dans l'église à Meshkoutimi pendant longtemps, qui a vu un paquet de jeunes croyants arriver à l'église. Lui, il dit, d'après l'expérience que j'ai vue et que j'ai eue, de tout ce que j'ai vu passer dans mon église, c'est que pour être certain que quelqu'un va être persévérant puis qu'il va rester, il faut que tu attendes quasiment 5 ans. C'est pas une règle fixe, là. Mais il dit, ça donne une bonne idée. Quand quelqu'un est là, puis ça fait 5 ans qu'il est là, puis qu'il continue de venir, ça donne une bonne indication de quelle sorte de foi qu'il y a en lui. Mais il dit, des fois, là, avant 5 ans, il y en a beaucoup qui flochent. Il y en a beaucoup qui s'en vont. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Est-ce que vous avez vu ça passer ici, vous autres? Des gens qui sont venus 1 mois, 2 mois, 1 an, mais ils n'ont pas passé le test du 5 ans. Alors, ils vont croire, mais pour un temps. Dans Jean 8, 31, Jésus dit, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. » Mais il y a une question de demeurer attaché, fixe. Hébreux 3, 14, on lit, « Car nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. Jusqu'à la fin, c'est quand ça? Jusqu'à son retour. Tu es chrétien jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Ou jusqu'à ce que la mort te prenne. Luc Carrier est demeuré chrétien jusqu'à temps qu'il meure. Puis il y en a beaucoup de croyants qui disent, moi, je veux vivre l'enlèvement. Alors, c'est quand même une bonne chose. Ça ne veut pas dire que vous allez passer à travers, là. Mais vous êtes quand même, vous voulez demeurer attaché. Alors, jusqu'à ce que son retour, ou jusqu'à ce que la mort vienne, ça, c'est la véritable foi qui a toujours cette qualité-là de permanence. La foi, c'est permanent. Excusez. Pour ceux qui n'ont pas de racines, il ne s'agit pas de savoir si leur foi va succomber, mais quand elle va succomber. Mais c'est plate à dire, elle va succomber. Le réel, le vrai, il demeure. Luc 8, 13, on lit, « Il succombe au moment de la tentation. » Matthieu 13, 21, on lit, « Ils y trouvent une occasion de chute dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole. » Le terme grec traduit par « tentation », ça veut dire « un test », une mise à l'épreuve. Tentation, c'est souvent ça que ça veut dire. Quand tout va bien, OK, tout va bien dans votre vie, aucune douleur, aucune peine, aucune souffrance, aucun danger de s'afficher comme chrétien, tout le monde passe le test. Vrai?
Oui.
Pas de problème, tout le monde passe le test. Mais si, à cause de la parole, votre réputation, votre travail, votre argent, vos biens, votre famille sont mis en cause, ah, là, ça vient de changer. Tout le monde a connu ici mon beau-père, Alire Carbonneau. Toi qui as Marie-Claude, non? En tout cas, lui, quand il est venu au... Non, mais Seigneur, il y avait une business florissante. Alire, il vendait des télévisions. Puis après ça, c'était les antennes. Il fallait installer des antennes. Il en a vendu de l'antenne. Alors, il faisait de l'argent, Alire. Il y avait une business florissante. Mais là, il s'est converti. Il est devenu protestant. Les curés en chair disaient à leurs paroissiens de ne plus encourager à lire Carbonneau parce qu'il était devenu protestant. Alors, beaucoup ont écouté les curés. Ce qui fait en sorte que la business, quand tu es travailleur autonome puis qu'il n'y a plus de gens qui viennent t'encourager, qu'est-ce qui se passe? Tu n'as plus de revenus. T'as plus de revenus, puis t'as plus de revenus. Comme croyant, là, dans une situation de même, vous devez apprendre à faire confiance à votre sauveur. Est-ce que la foi de mon beau-père s'est essoufflée? Tous ceux qui l'ont connu, vous êtes capables de répondre à ça. Hein? Elle s'est jamais essoufflée. Mais, à cause de sa difficulté financière, parce qu'il n'y avait plus d'argent, il a fallu qu'il vende sa maison et son terrain à un de ses fils. Mettez-vous un petit peu dans cette peau-là, là, dans cette situation-là. J'avais une bonne job. Parce que je suis croyant, il n'y a plus personne qui vient chez nous. Alors là, je suis obligé de vendre ma maison, la maison dans laquelle moi je vis, Esther. Et la terre sur laquelle il vivait. Il a vendu ça à un de ses fils qui pouvait acheter ça. Mais il est demeuré, comme on lit dans Colossiens 1, 23, il est demeuré fondé et inébranlable dans la foi, sans se détourner de l'espérance de l'Évangile qu'il avait entendu. Ça, c'était mon beau-père. Ça brossait, il a perdu beaucoup de choses, il a beaucoup, entre autres, beaucoup d'argent, il n'a jamais perdu la foi. Là, on voit ici un exemple d'un test de consécration. Luc 14, 28, si vous voulez tourner là, là, je vais juste vous lire un petit passage. Luc 14, 28. C'est écrit, « Lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer, de peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le railler et disent « Cet homme a commencé à bâtir et il n'a pu achever. » Certains calculent le coût que ça va coûter pour venir au Seigneur et d'autres pas. Dans le temps du Seigneur Jésus-Christ, les foules accueillaient favorablement les paroles que Jésus disait. Mais il n'y en a pas beaucoup qui se sont engagés à le suivre. C'est la raison pourquoi Jésus, dans Luc 9, 23, il dit, « Si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix, puis qu'il me suive. » Si quelqu'un veut me suivre, c'est ça qu'il faut que tu fasses. Mais dans la foule où le Seigneur Jésus il prêchait, il y en a beaucoup qui accueillaient ça favorablement. Mais quand c'est le temps de passer à l'action, très peu l'ont fait. Très peu l'ont fait. Et malheureusement, dans le monde évangélique, c'est comme ça aussi. Il y en a qui entendent, sont bien d'accord, mais aussitôt que ça brasse un peu, on disparaît. On n'est plus là. Troisième terrain, Luc 8, 14. Ce qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont et la laissent étouffer par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie. Ils ne portent point de fruits qui viennent à maturité. Alors ici, c'est l'auditeur mondain, ou le terrain avec les épines et les mauvaises herbes. Ici, on a affaire à un cœur qui est trop passionné, trop occupé par les affaires du monde. C'est peut-être un terrain qui est bien labouré avec une bonne profondeur de terre, mais où les mauvaises herbes sont déjà bien installées puis ils remplissent le terrain. Autrement dit, les mauvaises herbes se développent plus vite que la bonne semence. Les épines occupent déjà toute la place. Alors, l'auditeur mondain, il entretient un lien d'amour trop fort avec le monde. Il est soit caractérisé par l'égoïsme, les désirs pécheurs et le système de croyances corrompu. Parce que vous êtes conscient qu'on vit dans un système dans le monde qui est corrompu. Hein? Je ne vous apprends pas grand-chose en vous disant ça. Là. Alors, c'est vers ça que l'auditeur mondain est attiré. Luc 8, 14 souligne qu'il s'est laissé étouffer par les soucis, par les richesses et les plaisirs de la vie. Tout ce charabia-là, ça inonde son cœur, ça étouffe la vérité de la parole de Dieu. Dans Luc 16, 13, on lit, Jésus il dit, « Nul serviteur ne peut servir deux maîtres. Ou il va aimer un, puis il va haïr l'autre. Vous pouvez servir Dieu, vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. » Mammon, ça, ça vient du grec, c'est le mot Mammonas, qui est la personnification de la richesse. L'apôtre Jean avait déjà dit quelque chose sur ça concernant 1 Jean 2, verset 15, il disait, « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde de la façon que l'auditeur mondain aime le monde. Si quelqu'un aime le monde de cette façon-là, l'amour du Père n'est point dans lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Mais il y a une chose importante qu'il faut souligner, par exemple, c'est que les richesses matérielles puis le plaisir comme tel, c'est pas ça qui est mauvais. C'est pas mauvais, ça, avoir du plaisir. C'est pas mauvais pouvoir profiter de certaines richesses matérielles pour qu'on puisse s'acheter telle voiture ou telle affaire ou telle affaire. C'est pas ça qui est le problème. Le problème, c'est que la bonne place, elle doit avoir la meilleure place dans nos mes priorités. Ce qui est mal, c'est de préférer les bienfaits plus que le bienfaiteur. C'est ça qui est mal. J'aime ça avoir des bienfaits, mais celui qui m'a donné les bienfaits, lui, je m'en occupe pas pantoute. Il y a plusieurs années, alors que nos enfants étaient petits, là, moi, j'ai deux sœurs. Le mari de la sœur la plus jeune chez nous, il a toujours eu une grosse job. Lui, il était représentant des compagnies, que des pistes à travers que le monde. Puis, qu'il y avait des grosses jobs. Puis, la compagnie pour laquelle il travaillait en ce temps-là, cette compagnie-là était propriétaire d'une loge au Centre Bell. Alors, Éric, mon beau-frère, il invite moi avec Suzanne puis nos enfants, Claudine avec ses enfants, il y avait lui puis sa femme, parce qu'eux autres, ça n'avait pas encore que d'enfants. En tout cas, on était une douzaine que dans la loge. Puis il y avait un spectacle, c'était un cirque, c'était durant le temps des fêtes, puis il y avait le cirque qui était là, là. Puis là, nous autres, on était dans la loge, là. Alors, on pouvait voir à l'extérieur les différentes scènes qu'il y avait là, puis on pouvait regarder ça. Je ne sais pas si vous avez déjà été dans une loge, là, mais lorsque vous êtes dans une loge, que vous voulez acheter une canne de jus de pomme grosse de même, là, ça coûte quelque chose comme 15$. Là. Puis là, tu dis, ah, c'est de même qu'ils font leurs argent, les Canadiens de Montréal. Non, mais entre autres, là, c'est une grosse business, ça roule comme ça. Ça n'a pas de bon sens. On pouvait prendre tout ce qu'on voulait, puis on ne payait rien, c'était la compagnie qui payait. Mais là, je voyais les prix, moi, là. Là. Je me disais, c'est donc bien fou, cette affaire-là. Mais j'ai dit, bien, merci, Seigneur. Tu nous permets de vivre ça. Tu sais, on n'ira pas là chaque semaine, là, mais la fois qu'on y a été, on a pu au moins profiter de cette abondance-là. Puis j'ai remercié le bienfaiteur. Alors, tout ça pour dire que c'est pas. Faut pas cracher sur tout ce qui est plaisant, ça va vivre, là. Mais il faut faire attention pour mettre les priorités à la bonne place. Donc, les trois types d'auditeurs qu'on vient de voir, de même que les trois sortes de terrains, ils ont tous une chose en commun. Luc 8, 14, ils ne portent point de fruits qui viennent à maturité. C'est ça le problème. Aucun fruit qui vient à maturité. Parce que c'est tous des incroyants. Le terrain 1, le terrain 2 et le terrain 3. Alors, le but de toute agriculture, c'est de produire du fruit, ce qui n'arrivera pas avec la sorte de terrain qu'on vient de voir. Les chefs religieux du temps de Jésus, les pharisiens, de même que le jeune homme riche, vous vous rappelez de son histoire, le jeune homme riche a quitté Jésus tout triste. Pourquoi? Parce qu'il voulait garder sa richesse. Le Seigneur lui a dit, va, vends tout ce que tu as, puis viens, suis-moi. Luc 9, 23. Viens et suis-moi. C'était trop pour lui. C'était trop pour lui. Il était une terre où ce qu'il ne pouvait pas faire ça, qu'il ne voulait pas faire ça. Ce qui nous mène au quatrième terrain, Luc 8, 15. Luc 8, 15, c'est la terre qui nous intéresse. Ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Alors, celui qui entend la parole et la comprend, selon Matthieu 13, 23. Alors, ce quatrième terrain-là est décrit par le Seigneur comme une terre bien préparée qui entend l'Évangile, qui la reçoit, qui la comprend avec une foi sincère. C'est la leçon clé de cette parabole-là. La persévérance, l'endurance, et le, c'est ça qui est la marque d'une foi authentique. La foi passagère, ce n'est pas de la foi. Jean 8, 31, c'est marqué, « Si vous demeurez dans ma parole, comme on a lu tantôt, vous êtes vraiment mes disciples. » Vous êtes vraiment mes disciples à cette condition-là. Vous devez demeurer dans la parole de Dieu. Maintenant, de quelle sorte de fruit est-ce qu'il est question lorsque le Seigneur dit qu'il faut porter du fruit? De quelle sorte de fruit qu'il parle? Il parle évidemment du fruit de l'Esprit qu'on lit dans Galates 5, 22. Verset que je vous lis. Le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. C'est cette sorte de fruit-là que le croyant est censé produire. Matthieu puis Marc soulignent tous les deux que le terrain devrait produire un fruit abondant. Ils parlent de 30, 60 et 100 pour 1. Autrement dit, un retour sur l'investissement de 30, 60 et 100 % pour le fermier qui a semé. Parce qu'on l'a vu, tous ceux qui cultivent un jardin, ils ont tous un même objectif, c'est-à-dire récolter. Celui qui sème la parole de Dieu a cet objectif-là aussi. Si on fait une analogie, on sait tous par expérience que les chrétiens ne portent pas tous la même quantité de fruits. Mais on sait aussi que la foi doit nécessairement produire du fruit. Un fruit qui devrait être visible et abondant, non rare au point d'être difficile à trouver. Quand Jésus disait « on reconnaît un arbre, mais ses fruits, si tu vois jamais de fruits, là... » C'est questionnable. Alors, c'est la même chose chez les chrétiens. Ce n'est pas des affaires extravagantes, là. Ceux qui sont... Il y a quelqu'un un jour qui avait dit, je vous l'ai déjà dit, « Dis-moi, quand je me suis converti, là, mes vaches s'en ont rendu compte. » C'est un homme dur, un homme, tu sais, qui battait des affaires. Il dit, « Quand je me suis converti, même mes vaches s'en ont rendu compte. » Alors, il y a eu une différence. Il y a eu une différence. C'était le père de Gaston Jolin qui disait ça. OK, alors ce que Dieu demande, c'est qu'on doit préparer nos cœurs à recevoir la parole. Ça, c'est le devoir de tous les êtres humains. Le résultat va toujours dépendre de la condition du cœur des auditeurs. La réussite n'a rien à voir avec la compétence du semeur. Le semeur, qu'est-ce qu'il fait? Il lance des graines. Il ne sait même pas où est-ce que les graines vont tomber. Bien, il sait, là. Mais il y en a plusieurs qui peuvent tomber sur le long du chemin. Alors, le semeur, lui, il sème. Ça n'a pas rapport avec sa compétence, là, lui. Maintenant, préparer nos cœurs de nous-mêmes. Bon, c'est qu'on arrive à la fin. Là, vous allez dire, comment qu'il va finir ça? Vous allez voir. Préparer nos cœurs de nous-mêmes, on est incapable de faire ça. Pourquoi? Parce que même si on est chrétien, on demeure. Lorsque vous êtes venu au Seigneur, vous avez reçu quelque chose, mais vous n'avez pas perdu quelque chose. Vous avez reçu une nouvelle naissance, mais vous n'avez pas perdu votre vieille nature. Et votre vieille nature, elle veut toujours être son propre Dieu, son propre chef. Maintenant, comment donc pouvons-nous produire ce fruit exigé par ceux qui sont cette bonne terre-là? comment qu'on peut produire le fruit. Là, il est 10h37, ça va aller au prochain message. Ça, c'est comme le capitaine, le bonhomme, il dit ah ouais, mais on ne peut pas continuer là parce que l'heure est avancée. C'est la même chose avec ça. Alors, le prochain message, on va voir comment s'y prendre pour justement produire le fruit que le Seigneur s'est mis au monde. Prions. Oui, notre Dieu et Père, on est encore heureux de pouvoir avoir ouvert et effleuré ce que ta parole nous déclare dans cette parabole du semeur. On prie, Seigneur, de nous aider à bien assimiler, à bien comprendre tout ce que tu nous expliques, afin qu'on soit en mesure de le mettre en pratique pour que toi seul puisses retirer toute l'honneur et la gloire. Et c'est dans le nom de ton bien-aimé Fils que nous te le demandons. Amen.